Voyager à travers 800 ans d'histoire, mais aussi découvrir ce lieu qui fut la dernière demeure de Léonard de Vinci. Vous pouvez visiter les ateliers du maître avec son cabinet de curiosités. Et...
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, avec Cité Radio.
Salut, c'est Philippe de British Connection. British Connection. Ne l'oubliez pas.
Cité Radio vous donne rendez-vous.
Les chroniques irrégulières. Chaque semaine, Hélène Duvialard apporte son regard affûté sur des sujets d'actualité. C'est à retrouver le vendredi à 13h30 et le dimanche à 16h sur Cité Radio, La Positive Info. Roman Césambre publié chez Grasset. On se retrouve tout de suite avec nos invités.
Tout en auteur. Sur Cité Radio, Guillaume Colomba.
Cité Radio, La Positive Info est aujourd'hui au Salon du Livre de Chinon et nous sommes avec Luc-Michel Foissier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions. Alors, on aimerait déjà savoir comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivain.
Eh bien, je crois que ça part au départ, ça vient de mes parents qui étaient vraiment des fervents lecteurs. Et qui nous ont donné à mon frère et moi cette passion de l'écrit et cette attirance pour les livres. Le livre a toujours eu une place très importante chez nous.
Et vous avez des auteurs favoris ?
Et je ne vais peut-être pas tous les citer.
En tout cas, un panel d'auteurs très éclectique. Et puis, votre actualité, Luc-Michel Foissier, c'est Cumulonimbus, hein, votre livre qui est paru le 4 avril 2024 aux éditions Julliard. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre avec une maman photographe qui part en Auvergne sur les traces de sa fille Calypso ?
Et oui, donc c'est une maman photographe qui décide de faire un livre sur les pareidolies. Ce sont les formes que l'on imagine dans les nuages, que lorsqu'on voit un visage, un cœur. Et donc elle veut faire ce livre de pareidolies, mais pour ça elle part en Auvergne parce que c'est le dernier endroit où elle a été heureuse avec sa fille l'été précédent. Or, sa fille a disparu, l'enquête de police n'a rien donné et elle va, elle, mener sa propre, c'est-à-dire d'imaginer ses formes principalement dans les nuages. Et j'ai appris ce mot un jour dans une interview de Grégoire Delacour qui évoquait ça dans un de ses livres, de façon assez, pas très approfondie, mais en tout cas, il avait prononcé ce mot pareidolie. Ça a été pour moi une illumination, je ne connaissais pas ce mot, et enfin, il y avait un mot pour désigner ces effets visuels, et je m'étais toujours dit que je ferais un roman, ou en tout cas un livre qui parlerait de ça. Et la deuxième raison, c'était aussi que l'écriture dont on se rend plus très compte, mais au moins l'éditrice, elle qui a un regard vraiment extérieur et qui a un regard nouveau, a principalement traqué ses petits défauts, ses petites choses-là, ajusté un petit peu. Mais bon, comme ce n'est pas mon premier roman, il était déjà plutôt abouti.
Et vous avez eu des bons retours des lecteurs et des internautes depuis la sortie du livre début avril ?
Oui, pour l'instant, je suis agréablement surpris de voir que je fais pleurer. je suis peut-être un peu sadique là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a tellement simple fait de venir à Chinon, ça avait quelque chose de très exaltant. Je n'avais pas eu encore l'occasion de venir, et je trouve que la ville est magnifique. On a été très très agréablement accueillis, avec beaucoup de chaleur l'équipe organisatrice est vraiment aux petits soins avec nous et les lecteurs. Les échanges sont très agréables. J'ai trouvé un public très ouvert et ayant envie de découvrir. Et ça, c'est vraiment plaisant pour un écrivain, qu'il prenne le livre ou pas d'ailleurs. Mais on a vraiment des échanges très intéressants. Et c'est vraiment plaisant.
Il y aura d'autres rencontres qui sont prévues en librairie, dans des salons ?
Oh oui, la semaine prochaine, je serai à Rive-de-Gier, entre Lyon et Saint-Étienne. Et puis, il y aura des signatures en commun avec mon frère, notamment à la librairie La Bicyclette Bleue, le 6 juin. C'est la bicyclette de la fille de Régine Deforge qui nous invite. Et puis aussi à la librairie de Gérard Collard. Parfois, les périodes sont bien sombres et on a besoin de quelques lumières comme ça.
Ce qui est très juste. Et vous pensez déjà à un prochain livre ?
Oui, il y a déjà quelque chose qui est en cours. De toute façon, il y a un livre qui est signé déjà chez L'Arbre Vengeur, qui paraîtra vers la fin de l'année, dans un tout autre genre, plus humoristique, et qui se rapprochera plus de mon roman Les Pantoufles, qui a déjà eu un succès assez intéressant et qui sera un livre assez drôle. Et puis, il y a un manuscrit qui est parti chez mon éditrice, chez Julliard, mais pour l'instant, je l'ai envoyé il n'y a pas très longtemps, donc j'attends de voir un peu son retour.
Très bien. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour Cumulo Nimbus, votre roman donc, qui est paru aux éditions Julliard. Merci beaucoup, Luc-Michel Foissier, d'être intervenu sur cet accueil. Alors, vous êtes vraiment honoré d'être de retour en Touraine pour cet événement littéraire.
Oui, oui, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, c'est le premier salon où je viens défendre mon dernier roman qui n'est même pas encore paru en librairie. On l'a là en exclusivité sur le salon. Mm-hmm. C'est le quatrième tome du Bureau des Affaires Occultes qui s'appelle le champ Maléfique. Et Valentin quitte Paris, les bas-fonds parisiens, pour aller en Vendée.
Voilà, donc il sort le 2 mai, toujours aux éditions Albin Michel. Donc le quatrième tome du Bureau des Affaires Occultes. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce livre, donc, qui est une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, qui se déroule en mai 1832 en Vendée, au bord de l'insurrection?
Ben oui, en fait, on va demander à Valentin d'aller éclaircir une série de crimes mystérieux en Vendée. Un chant funèbre résonne la nuit en Vendée, dans le brouillard du bocage vendéen, et on retrouve des gens étranglés.
Reste encore une période intéressante à traiter avec sa part de mystère.
Elle est intéressante parce que voilà, c'est un moment de changement dans la police où on s'oriente vers de la police scientifique. En même temps, c'est une période très instable d'un point de vue politique, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre, puisqu'il y a une tentative de soulèvement de la Vendée. Donc pour placer des intrigues policières, c'est vrai que c'est une période très propice parce qu'il y a des sociétés secrètes, il y a des complots. Et donc, en plus, le contexte de faire des romans où l'intrigue, où j'invente pas une intrigue comme ça dans l'abstrait et que je viens plaquer sur l'histoire qui me servirait simplement de décor. Non, moi je veux vraiment que mes intrigues elles soient complètement mêlées avec les événements historiques du temps, avec des personnages. Il y a toujours à chaque fois des personnages célèbres, réels de l'époque. Là, on trouve là, évidemment la duchesse de Berry qui était la bru de Charles X, le roi parti en exil. On trouve Félix Arvers qui était un poète de l'époque, évidemment aujourd'hui moins connu que les autres grands poètes de l'époque, que ce soit Hugo, Nerval. Félix Arvers, il présente la particularité d'avoir connu une célébrité très importante, mais à cause d'un seul poème, le sonnet d'Arvers. Et là, on découvre qui a pu inspirer ce sonnet, quelle est la mystérieuse inconnue qui a inspiré ce sonnet à Arvers. Donc oui, gros travail documentaire, justement pour pouvoir retracer ces événements historiques qui vont être étroitement mêlés avec les intrigues que j'invente.
Voilà, donc on ne va pas trop divulgâcher, hein, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, c'est donc un nouveau livre. Avez-vous votre métier de romancier et que représente l'écriture pour vous?
Ah bah pour moi, mes parents m'ont donné ce goût du livre très tôt, de la lecture très tôt. Donc pour moi, les lectures, parce qu'en fait, avant d'être un écrivain, je suis un lecteur. Voilà. Ouais. Je suis avant tout un lecteur qui aime lire. Et donc du coup, pour moi, la lecture, l'écriture, bah, c'est l'évasion. Mes parents m'avaient dit, tu sais, si tu aimes lire, tu ne seras jamais seul. Et c'est très vrai. Donc la lecture, on en a besoin. C'est finalement le seul loisir que l'on ne peut pas faire en faisant autre chose. Vous pouvez faire du sport en faisant autre chose, vous mettez des écouteurs et vous allez écouter de la musique en même temps, vous pouvez écouter de la musique, faire autre chose. Pour lire, faut être un minimum concentré, faut se plonger dedans, faut s'immerger dedans. Et à notre époque, on est tellement sollicité, où il y a des choses qui nous arrivent de partout. Voilà, lire, c'est se poser, prendre une heure pour se poser.
Et finalement, un prochain livre, peut-être un nouveau tome du Bureau des Affaires Occultes.
Alors maintenant, je vais passer à un rythme de tous les deux ans pour le Bureau des Affaires Occultes. Je vais alterner avec des one-shot, donc des livres, un seul livre sans suite, sur deux époques. Parce que j'ai envie aussi de varier un peu. Et donc, pour ne pas laisser les fans du Bureau des Affaires Occultes sans rien. En fait, les années où il n'y aura pas de grand format Bureau des Affaires Occultes, il va y avoir des DBD parce que ça va être donc adapté en BD. La première DBD sortira l'an prochain, 2025. Et en fait, ça va pas faire doublon avec les livres parce que ça va être des enquêtes inédites et c'est un spin-off. Le personnage principal, ça sera plus Valentin, ça sera Aglaé Marceau, donc la jeune actrice qui accompagne Valentin. Et donc, j'ai hâte aussi de voir ça, de voir mes livres mis en image par d'autres à travers cette BD.
Très bien. Bah, en tout cas, on encourage tous nos auditeurs et nos internautes à découvrir le quatrième tome du Bureau des Affaires Occultes, qui est donc Le Champ Maléfique, à découvrir aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Éric Foissier, d'être intervenu sur cette. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine?
Alors, déjà, parce que j'ai fait de la lecture. Hein, j'étais passionnée de lecture, des études de lettres classiques. Et puis, la littérature, oui, l'écriture, mais l'écriture de polar, parce que c'est quand même mon domaine de prédilection. Et je dirais même exclusif, parce que j'écris rien d'autre.
Oui.
Je ne fais que du polar. Donc comment ça m'est venu? Ça m'est venu parce que, justement, les lectures, et puis 38 années dans la police.
Et quelle est pour vous la recette d'un bon polar?
Alors, recette, non, il ne faut pas rêver. Hein. Vous ne trouverez aucune recette nulle part. Je pense que c'est une espèce d'alchimie qui va se créer entre l'auteur et le lecteur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les pieds au mur, la pub, vous répandre sur toutes les radios. Si le lectorat n'accroche pas, ça ne veut pas dire que c'est un livre raté, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre, ça veut dire que un bon livre, c'est quand même celui qui va rencontrer son lectorat, c'est son public.
Et justement, vous avez un public de lecteurs fidèles, puisqu'on voit que vous avez notamment obtenu le prix du Quai des Orfèvres en 2013. Donc c'est important de recevoir des différentes distinctions et que vos lecteurs, vos livres soient bien accueillis par le public et la critique.
Mais oui, c'est une reconnaissance. Et c'est un encouragement parce que moi, ça fait 30 ans, bientôt 30 ans que je publie des livres. Si ça n'avait pas été le cas, donc j'aurais abandonné quand même. On n'est pas masochiste. Il faut persévérer quand même parce que c'est pas acquis. C'est pas... Au premier livre, il y en a qui ont cette chance qu'au premier bouquin, c'est un succès gigantesque. Ce n'est pas toujours le cas. Mais puis il y a des livres qui marchent moins.
Donc votre nouveau livre qui est paru aux éditions Syros. Alors est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce livre, donc où Olympe, la fille du commandant marin, enquête sur la mort suspecte d'un homme dans le dojo où elle pratique le karaté.
Oui. Donc c'est le point de départ de l'histoire, c'est ça. Et il y a aussi le fait que cette histoire va nous amener à nous intéresser à une histoire ancienne, parce que ce type qui est mort, il n'est pas mort par hasard. Évidemment, en tirant un petit peu les fils de l'histoire, on va se rendre compte qu'il était sorti de prison et couvert, qu'on ne peut pas détecter, on ne sait pas quand ils vont passer à l'acte, on ne sait pas s'ils vont passer à l'acte. Et puis, ces tueries de masse prennent différentes formes, différents aspects. Et elle fait le lien assez vite avec la mort de ce type là devant son dojo, avec une affaire ancienne qui a été jugée pour laquelle cet individu avait été condamné, et elle trouve qu'il y a des choses qui lui plaisent pas dans cette histoire, et donc elle tire les fils pour essayer de déterminer ce qui s'est réellement passé.
On ne va pas trop divulgâcher.
On ne va pas divulgâcher, bien sûr que non. Mais ça nous ramène, encore une fois, à la persévérance qu'il faut montrer dans ce genre d'affaires. Oui. Ne jamais se fier aux apparences. Aller chercher derrière les miroirs. Ne pas se contenter. L'enquête, celui des magistrats, des scientifiques, de la police scientifique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. De la psychologie aussi, psychocriminologie. Donc évidemment que ça fait appel à tout ça, et ça crée un ensemble de choses qui font qu'au bout du compte, on a une intrigue qui se construit justement autour d'une enquête multidimensionnelle.
Donc c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Vous êtes présente aujourd'hui au Salon du Livre de Chinon. Vous êtes honorée d'être présente aujourd'hui et d'aller à la rencontre des lecteurs?
Oui, je suis honorée, d'autant plus que je suis invitée d'honneur.
Et oui, c'est pour ça.
Et que le public est présent, intéressé. On a affaire à des gens qui ne viennent pas juste se promener, voir un peu comme c'est dimanche aujourd'hui, par exemple, se dire « tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais aller au salon ». Non, il y en a qui sont venus exprès, de loin d'ailleurs, pour nous rencontrer. Ça, c'est bien, quoi. C'est ce qu'on attend quand même un peu quand on vient dans ces endroits-là. Outre le fait que l'accueil est hyper chaleureux, que les gens sont adorables, aux petits soins, et que en lecteur, c'est quelqu'un de vivant. C'est pas juste une personne qui est derrière un écran ou derrière un réseau social qui va nous dire « j'ai bien aimé votre livre ». Les voir physiquement, c'est... Et pour eux, c'est également, je pense, important de voir l'auteur, de faire une petite photo avec lui, de se dire il existe vraiment, c'est pas un avatar, c'est pas...
Exactement. C'est très juste. Et puis vous avez d'autres projets, Daniel Théry, peut-être un autre livre?
Alors d'autres livres, plusieurs en préparation, et de la télé à vous, et bonne journée aussi.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien.
San Severino sur Cité Radio avec le petit bal perdu.
À Chambray-les-Tours, on écoute Cité Radio sur le 89.3.
Tout en auteur. Guillaume Colomba.
Place au livre sur Cité Radio, la positive info, et nous accueillons Arnaud Delagrange pour évoquer un roman sensible et émouvant étant à la fois une réconciliation et un hommage aux gens de la mer. Bonjour Arnaud Delagrange.
Bonjour.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre activité puisque vous êtes journaliste et correspondant à Londres pour le quotidien Le Figaro ?
Oui, donc je suis journaliste depuis quasiment une trentaine d'années, donc j'ai été en poste, j'ai toujours travaillé.
Passé, vous avez été grand reporter, spécialiste des conflits armés, directeur adjoint de la rédaction Services étrangers du Figaro. En quoi toutes ces fonctions étaient importantes dans votre carrière journalistique ?
Moi, je suis rentré en fait dans ce métier parce que justement j'avais cet appétit pour courir le monde et le découvrir. C'est vrai que les conflits, ça m'a beaucoup apporté, non pas uniquement pour l'adrénaline. Oui, il faut bien le dire, elle est là, mais parce qu'on voit les choses de manière exacerbée, c'est-à-dire on voit ce qu'il peut y avoir de pire dans l'espèce humaine très souvent, mais aussi on voit ce qu'il y a de meilleur avec des réactions incroyables. Et donc c'est un poste d'observation. J'ai toujours aimé les mots. Je crois que c'est Flaubert qui disait que les phrases sont des aventures. Je pense qu'il y a un côté aventure dans les mots. Je me souviens aussi, j'ai plus la citation exacte, mais il y a un personnage de Shakespeare qui dit « les mots sont une armée pour qui sait s'en servir ». Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point les mots pouvaient enchanter, pouvaient faire rêver, pouvaient galvaniser, pouvaient aussi décevoir parfois. Et donc, il y a une magie du verbe. Alors, le verbe, il peut être oral, mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Le monde tel qu'il est, ou tel que je l'imagine par les mots, est pour moi quelque chose d'assez magique, même si c'est parfois compliqué et ça peut être douloureux aussi.
Et bien, c'est ce qu'on retrouve dans votre nouveau roman, La promesse du large, hein, qui est donc votre troisième roman qui est paru le 14 mars 2024 aux éditions Gallimard. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre avec Edan qui revient en Bretagne pour réveiller les fantômes du passé et enquêter sur la mort de ses parents après le naufrage en mer de leur bateau en 1974?
Oui, alors en fait, Aidan, donc, est franco-irlandais, il a perdu père et mère, en effet, dans un naufrage, quand il n'était que nourrice. Il affronte ces fantômes-là. Et là, j'explore un peu le thème des blessures familiales non cicatrisées, parce qu'on sait bien, alors on n'a pas tous, d'ailleurs, Dieu merci, des histoires aussi tragiques, mais on est beaucoup, enfin beaucoup de gens, tout le monde même à peu près, je crois, a eu des blessures intimes, familiales, personnelles, qui, si on les laisse de côté, on s'aperçoit en fait qu'elles nous pourrissent lentement et qu'elles nous empêchent d'avancer et qu'elles nous rendent très inaptes à la relation aux autres.
Et Aidan va tomber amoureux de Manon, une restauratrice de vitraux et passionnée par l'océan qui va l'aider dans sa rééducation. Justement, comment avez-vous conçu l'intrigue de votre livre qui est donc à la fois une quête et une enquête ?
Oui, alors c'est à la fois exactement alors une enquête que j'ai voulu quand même pas trop sur l'artiste un peu rêveuse et en même temps une grande navigatrice et qui, comme souvent les femmes, sont tombées dans les clichés hommes-femmes, mais je pense qu'il y a une très fine sensibilité, une forte compréhension de l'âme humaine, souvent chez les femmes, plus forte que chez les hommes. Donc elle va comprendre exactement ce qu'il faut pour déverrouiller Aidan, dont elle est tombée amoureuse, et pour le faire un peu renaître à la vie. Et c'est vrai qu'il y a, je pense que on a dans nos vies, qu'on soit homme ou femme, on a besoin pour se retrouver soi-même, pour se trouver même soi-même, j'allais dire, on a besoin de solitude, on a besoin de plonger en nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Il faut prendre du temps, il faut parfois de la solitude pour le faire. Mais on a aussi besoin, parfois et souvent même, d'un détour par autrui pour ne pas rester dans un face-à-face intérieur avec soi-même. Et là, ce détour par autrui, ça va être par entière. Et c'est un peu un cri d'amour à la mer, au monde de la mer, aussi aux marins, aux pêcheurs, aux sauveteurs en mer. Mmh. Et il y a cette mer donc omniprésente qui, pour moi, est très importante. Moi, j'ai pas eu, Dieu merci, par exemple, un destin aussi tragique qu'Aidan, que mon personnage, hein. Mais j'ai eu un très grave accident, par exemple, quand j'avais 18 ans, qui a influé sur le cours de ma vie. Et c'est vrai que la mer, à ce moment-là, la navigation à la voile, pour moi, a été une planche de salut. C'est ce qui m'a permis de me rééquilibrer, de retrouver le goût à beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, cela reste ce que j'appelle le lieu juste pour moi, la mer, le lieu où je suis bien, dont j'ai besoin. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être autre chose, hein. Chacun son lieu juste, encore une fois. Mais pour moi, il y a cette mer qui est en plus, je trouve, un des derniers espaces de liberté, hein. Je trouve que c'est un peu peut-être banal de le dire, mais il y a Alessandro Baricco, cet auteur que j'aime beaucoup, qui dit « la mer est sans route, la mer est sans explication », dans un de ses romans. Et c'est vrai que la mer nous rend libre. Et puis je pense que même pour le plus épais des hommes ou des femmes, la mer incite au rêve, même si c'est aussi le concret, parce que c'est pas la navigation impose d'être dans l'action, mais c'est quand même un jeu de lumière et un jeu entre les éléments, le vent, la mer, qui ne peut pas laisser indifférent, à moins d'être vraiment très hermétique à toute la beauté du monde. Précieux de pouvoir retravailler un texte, parce qu'on a toujours, de l'extérieur, on se dit peut-être qu'un roman, ça sort comme ça d'un premier jet, mais je pense qu'en fait, derrière, c'est aussi beaucoup de travail, c'est un peu comme en mer, il faut tirer des bords parfois, on n'avance pas tout droit, le vent est parfois contraire, donc il faut savoir composer avec les choses pour arriver à destination.
Et par le passé, vos romans ont été récompensés. Vous avez obtenu le Grand Prix Jules Verne 2018 pour Les Vents Noirs et le Prix Roger Nimier et le Prix littéraire de l'Armée de Terre Erwan Bergo en 2019 pour Le Huitième Soir. Cela est important pour vous de recevoir toutes ces distinctions et que vos livres soient bien accueillis par le public et la critique ?
Écoutez, les distinctions, on va pas les bouder. C'est toujours plus agréable d'avoir un prix littéraire que de se prendre une porte dans la figure, si vous me permettez. Mais je pense que c'est bon. C'est pas non plus. C'était des prix qui m'ont beaucoup plu. Jules Verne, ça m'a plu parce que évidemment, ça faisait référence à tout mon imaginaire de jeune homme, de tout ce que j'avais pu lire. Donc voilà, Roger Nimier aussi, c'est un prix qui est dans le milieu littéraire est un bon marqueur. Donc voilà, c'est intéressant. Mais je pense que là, le principal n'est pas là. Je crois que ce que je le vois, en tout cas d'ailleurs avec ce nouveau roman, avec La Promesse du Large, je le vois par exemple avec les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux qui ont aussi des côtés très négatifs mais aussi positifs pour ce genre de choses, où j'ai des retours de blogueurs, blogueuses, de gens qui lisent le livre et donc de voir que l'accueil est compris et de voir surtout que votre intention de ce que vous voulu mettre dans le livre est saisie et touche des gens, ça c'est vraiment très intéressant. Avec d'ailleurs quand même toujours le fait que tout le monde ne voit pas exactement la même chose dans un livre, tout le monde ne retire pas forcément les mêmes choses, et c'est ça qui est intéressant. Et là aussi, c'est un peu mal de le dire, mais un livre se fait, c'est l'auteur, mais aussi le lecteur, c'est un espèce de duo, et le lecteur, chaque lecteur a sa sensibilité propre et sa propre lecture d'un livre. Et voilà, et donc c'est un peu... Oui, c'est ça surtout qui est gratifiant. Ça peut être dans des rencontres en librairie aussi, ou dans des salons de livres, de voir que les gens apprécient ce que vous avez écrit. Ça, c'est plutôt agréable.
Et justement, vous allez promouvoir votre ouvrage dans des rencontres en librairie, dans des salons ?
Oui, il y en a un certain nombre. Alors, je ne fais pas une tournée mondiale, je n'ai pas eu le prix Goncourt, mais il y a un certain nombre de salons, certains qui vont se passer d'ailleurs dans l'ouest de la France, en Bretagne, ce qui me plaît bien puisque l'histoire se passe là-bas. Mais là, je vais au salon de hier, par exemple, dans 15 jours. Et c'est toujours agréable parce que même s'il y a beaucoup de monde, les gens passent, mais je trouve qu'il y a toujours des échanges intéressants. Et dans les librairies aussi, on sait combien les libraires sont importants pour défendre les livres. Et souvent, quand c'est pas juste une simple dédicace, mais quand il y a une rencontre avec le libraire qui vous interroge sur le livre, c'est souvent assez passionnant et très pointu. Et ce sont parce que ce sont des gens qui ont une telle sensibilité littéraire, ils sont tellement habitués à lire des livres qu'ils sont souvent très pertinents dans leurs questions et aussi la plupart du temps très bienveillants pour vous soutenir.
Et quels sont vos projets journalistiques, littéraires ?
Bah écoutez, là pour le moment je suis toujours en poste à Londres pendant quelques temps, en espérant d'ailleurs, en souhaitant une longue vie au roi, parce que durant mon mandat en Angleterre j'ai enterré la reine et j'aimerais bien que le roi qui est malade, comme vous le savez, ait un règne un peu long. Non, je disais ça, c'est un clin d'œil, mais il n'y a pas que les sujets monarchiques ici, il se passe beaucoup de choses en Angleterre depuis le Brexit, donc moi j'y reste pour le moment. Et côté littéraire, évidemment, dès qu'on a terminé un livre, on a plutôt tendance à penser à celui d'après, et c'est vrai que là j'ai une histoire qui me tient beaucoup à cœur, mais qui va être un défi à relever. J'ai commencé à écrire deux chapitres, ça a l'air de fonctionner, mais ce n'est que le début, et oui c'est un défi parce que je vais me mettre dans la peau d'une femme et en écrivant à la première personne, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que c'est pas toujours complètement évident à faire, mais enfin c'est en tout cas un défi qui m'intéresse.
Et on vous souhaite en tout cas le meilleur pour La Promesse du Large, votre roman paru aux éditions Gallimard, et puis on vous souhaite évidemment bon courage dans votre métier en tant que correspondant à Londres pour Le Figaro. Merci beaucoup Arnaud Delagrange d'être intervenu sur Cité Radio pour nous parler de vos actualités. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024, prenez soin de vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
Et nous marquons une dernière pause musicale avec Joe Cocker.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and the way to find that you're not there? What do I do to make you want me? What have I got behind? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more uncertain. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? All it seems to me, silence seems to be the hardest word. Thank you.
whatever I'm gonna do to make you love me. Whatever I'm gonna do to be heard. What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do? I'm sorry, seems to be the hardest word. Yes, the hardest word.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio.
Toute l'actualité littéraire est dans Tout en auteur, sur Cité Radio.
Place au livre sur Cité Radio, la positive info, et nous accueillons Hélène Guesterne pour évoquer une saga familiale bouleversante touchant le lecteur en plein cœur de la Bretagne. Bonjour Hélène Guesterne.
Bonjour Guillaume.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine ?
Ça vient de l'enfance, puisque c'était des enfances où on lisait beaucoup, beaucoup plus que maintenant. Et puis, en étant beaucoup à la campagne, avec finalement peu d'occupations en dehors de la nature, bah, la lecture c'est devenu assez vite une occupation centrale. Et puis, je sais pas vraiment d'où vient l'envie d'écrire, mais c'était là depuis longtemps.
Et vous avez des auteurs favoris ?
Ah, j'ai beaucoup d'auteurs favoris. J'ai une bibliothèque entière d'auteurs favoris. J'en ai énormément, oui. Il y a des gens que j'ai énormément lus. J'ai beaucoup lu Georges Pec. J'ai énormément lu Anne-Marie Gara, que j'ai eu la chance de connaître, qui a été une personne tout à fait déterminante pour moi. Je suis une grande lectrice d'Annie Ernaux, dans un autre registre. J'aime beaucoup lire Jean Rollin. Et puis, bah, j'ai lu mes classiques comme tout le monde, avec certains romans. J'aimais beaucoup lire Stendhal, j'aimais bien Gide, enfin j'étais une lectrice quoi.
Donc une lectrice passionnée, hein, c'est moins que l'on puisse dire, avec des auteurs très éclectiques. Et puis donc votre actualité, Hélène Guesterne, c'est Sésambre, hein, votre roman qui est paru le 27 mars 2024 aux éditions Grasset. Alors est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre avec Yann de Kerembrun qui quitte son poste de professeur d'histoire à Paris pour emménager au Couéron, la maison familiale située à Saint-Malo face à l'île de Sésambre?
Oui, bah c'est un monsieur qui est passablement fatigué, qui attrape la mauvaise cinquantaine, qui est fatigué de sa vie et de pas mal de choses. Et à l'occasion du décès de son père, il va décider de retourner pour une année en Bretagne, s'installer dans la maison familiale. Et à cet endroit-là, il va découvrir, en voulant faire de la place tout simplement pour s'installer dans un bureau, il va découvrir des livres de raison, des carnets quotidiens qui ont été tenus par son arrière-grand-père qui avait fondé une grande compagnie maritime qui envoyait des navettes entre Saint-Malo et les îles anglo-normandes. Donc il va s'intéresser au passé de cette compagnie qui implique aussi l'île de Sésambre, qui a été une île qui a une histoire extrêmement riche à travers les siècles. Et puis au passage, il va soulever quelques lièvres et dénouer quelques nœuds qui étaient enfouis dans la plaine générationnelle.
Et quel a été le point de départ et comment avez-vous conçu l'intrigue de votre roman entre passé et présent, tout en évoquant
l'arrière du personnage, devienne aussi une voix collective et porte au-delà finalement d'une seule histoire ou d'une seule vie?
On vous qualifie d'ailleurs de romancière de l'archive et de l'investigation, c'est un terme qui vous va bien?
Ah, moi ça me va très très bien. En fait, quand j'étais petite et que j'aimais bien lire, je rêvais d'être détective, donc je ne suis pas devenue détective, mais j'essaye de me rattraper un peu en écrivant des romans.
Oui, et vous qui résidez dans l'Est, ça a été une envie que vous aviez de faire l'action de ce livre en Bretagne, et est-ce que vous aimez cette région?
Ah, je l'aime à la folie, cette région, ça fait très longtemps que j'y vais, et d'ailleurs l'idée m'est venue quand je me promenais sur l'île de Jersey, en regardant comme ça cette lumière qui y a pas que la mer, il y a la lumière, enfin, tout est fascinant là-bas, tout est beau, c'est d'une beauté magnétique. Donc après avoir regardé très longtemps ce paysage sans me lasser de sa beauté jamais, en étant à chaque fois plus subjuguée que la précédente, la tentation d'en parler était assez grande, mais encore fallait-il trouver le moyen, parce que bon, mettre un personnage face à la mer pendant 200 pages de contemplation, c'est un peu difficile, donc il faut organiser d'autres ressorts pour que cette contemplation devienne finalement active.
Et c'est vrai que la Bretagne est un personnage à part entière, avec de nombreuses descriptions qui sont très somptueuses, avec les paysages, la mer et la plage. Et d'ailleurs, dans une interview, Hélène Gestern, il me semble que c'était pour Sud-Ouest, vous dites que vous n'aimez pas le terme de secret de famille, mais il est pourtant question d'héritage et de transmission dans votre roman. C'est cela que vous avez souhaité aussi montrer dans votre livre ?
Oui, tout à fait. C'est pas que j'aime pas le terme de secret de famille, c'est que depuis mon premier roman, on m'a un peu cantonné à ça. Romancière du secret de famille, et je trouve que le secret de famille, c'est intéressant, mais c'est un peu étroit, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que il n'y a pas que son histoire, il y a l'histoire des autres aussi, il y a l'histoire du monde de façon générale, il y a l'histoire de la société, il y a la politique, l'écologie, bon, tout ça, ça fait partie aussi de la narration, ça revient dans des éléments. Donc le secret de famille, c'est surtout le moteur de l'enquête, justement, parce que on peut avoir des personnages qui vont puiser leur motivation dans le désir de comprendre ce qui a pu leur arriver à eux, ce qui a pu arriver à leurs ascendants, ce qui a pu se briser dans la... Je précise qu'il fait 555 pages par hasard, ça s'est trouvé comme ça quand j'ai terminé le manuscrit, et curieusement, ça a résisté aux opérations de mise en page, de coupe, donc bah, il y a eu un travail de réduction, parce qu'il était encore plus long, et que bon, c'est déjà très long, et puis un travail de reconfiguration de certains chapitres, d'arriver à maintenir au milieu des différences de rythme une sorte de rythme général qui aille quand même vers l'avant, parce que c'est toujours le risque de, quand on porte un très long livre comme ça, c'est le risque de l'enlisement. Donc il faut être certain qu'il y aura toujours à un moment donné une rythmique qui va reprendre le dessus, comme dans une pièce symphonique en fait, qui peut avoir des moments lents et qui peut avoir des moments plus rapides, mais il doit y avoir une rythmique générale. Et ça, c'est l'éditeur qui veille justement à ce que, à un moment donné, le roman ne s'enlise pas ou ne tombe pas en panne.
Et depuis la sortie du livre, vous avez eu un bon accueil des lecteurs, des internautes ?
Alors, pour l'instant, l'accueil, les retours de lecteurs sont très très bons. Les internautes, je vous avoue que je ne regarde pas trop, parce que sur Internet, il y a toutes sortes de commentaires qui peuvent être parfois un peu expéditifs, donc c'est pas forcément le bruit de la mer, pas seulement l'eau, mais aussi la lumière, les embruns, le vent. Et ça, c'est très gratifiant de se dire qu'on a pu, juste à travers des mots, recréer la sensation.
Et par le passé, vous avez été récompensé par de nombreux prix, comme le prix René Fallet, le prix littéraire des lycéens d'Île-de-France, la Feuille d'or de la ville de Nancy, ainsi que le Grand Prix RTL Lire et le Prix Relais des Voyageurs Lecteurs en 2022. C'était pour votre roman 555 qui était paru aux éditions Arléa. Cela vous fait chaud au cœur de recevoir toutes ces distinctions et que vos ouvrages soient bien accueillis par le public et la critique ?
Ah bah oui, c'est toujours formidable quand un ouvrage est bien accueilli, parce que quand un ouvrage est mal accueilli, bon, on le surmonte, mais c'est toujours difficile. Et puis c'est vrai que les prix, ça offre aussi une visibilité qu'on n'aurait pas forcément. Et il y a des moments qui sont, pour 555, j'ai eu un prix qui s'appelle le prix du public des musiciens. Et ça, c'est quand on n'est pas musicienne soi-même, enfin, recevoir un prix comme ça, c'est plus que gratifiant, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir réussi dans une entreprise qui n'était pas évidente ou qui pouvait être difficile. Donc, on est toujours très reconnaissant quand on reçoit un prix. Parce que oui, on a d'une certaine façon à un rôle dans une société, peut-être qu'il apporte justement la gratuité, puisque dans un monde où on est quand même très... Le monde capitaliste est quand même beaucoup de très puissant là-dedans. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire quelque chose ou de justifier de quelque chose ou d'avoir une utilité. Après, il y a d'autres écrivains qui... et ils le font très bien, qui portent des messages sociaux extrêmement forts. Et ce sont des gens importants, les gens qui travaillent comme ça. Moi, je ne pense pas que je sois ce type d'écrivain-là, mais on dit quand même des choses dans les livres, on dit le temps de la réflexion.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Hélène Guestern, d'être intervenue sur Cité Radio pour nous parler de votre actualité. On rappelle donc le titre de votre livre, Ces ambres, qui est paru aux éditions Grasset. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.
Merci, un grand merci.
Tout en auteur se termine pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre...
Une naufragé, j'ai perdu ma route. Je parviens même pas à réaliser. Paralysé, j'ai perdu ma route. Quand on fait mal, comment se racheter? Dis-moi la douceur, combien ça coûte? On me comprend pas comme un étranger. Je peux plus bouger, j'ai perdu ma route. Dis-moi, dis-moi. Comment faire quand l'âme est dépouillée, déjà rouillée? J'ai perdu ma chance, j'arrive plus vraiment.